Je voulais, peut-être, si vous permettez, juste à propos de la traduction. Oui. Parce que c'est juste pour vous ajouter quelques mots à propos de, non, il faut être, de l'introduction de la notion du concept de laïcité dans le monde arabe, en arabe. Ça veut dire que ça commence à partir du 19e, 20e siècle en Orient. Ça veut dire il y a plusieurs situations. En Orient, c'est les intellectuels qui sont partis étudier donc à la Sorbonne et tout, et qui sont revenus en Égypte et qui ont donc essayé de répandre ce principe et ces idées. Et il y a eu au départ une traduction très maladroite et très malheureuse. Ils l'ont traduite par l'adinia, ça veut dire l'irreligion. Et donc ça a eu un impact très très négatif. Ça c'est au niveau de la traduction et du lexique même. L'autre situation c'est que là c'est à travers des intellectuels occidentalisés qui ont étudié en Europe qui sont revenus. En Afrique du Nord, c'est la présence française. Ça veut dire qu'en Afrique du Nord, les Nord-Africains ont vécu la laïcité en Algérie pendant la présence française et ils en ont vu beaucoup plus le côté négatif. C'est-à-dire que la loi de 1905, l'utilisation de la laïcité, beaucoup plus pour avoir une emprise sur les populations, beaucoup plus pour les exclure, surtout à partir du décret Crémieux où on a accordé la nationalité française automatiquement aux gens de confession israélite et pas à ceux de confession musulmane. Il fallait attendre une autre étape. Et la troisième étape, c'est après les indépendances. Ça veut dire que la laïcité était vu comme quelque chose qui s'opposait à l'islam, qui était justement le ciment qui unissait les gens face aux colonisateurs. Et troisièmement, après les indépendances, donc le recouvrement de l'indépendance, il y avait bien sûr une sorte de tentative de recouvrement de l'identité. Et l'identité, c'était la langue et la religion. Et il y a eu au départ donc des régimes politiques qui sont installés, soit disons libéraux comme en Tunisie, soit socialistes comme en Algérie. Et les deux ont essayé justement, parce qu'il y a eu aussi une élite qui s'est formée sur place, pas occidentalisés comme celles de l'Orient qui sont particuliers, mais des gens qui sont allés à l'école française et donc qui étaient soit de gauche, soit qui étaient donc de droite, mais francophones, modernistes, etc. Et ces régimes se sont appuyés sur ces intellectuels pour essayer, disons, de faire passer des régimes soit libéraux, soit socialistes, qui étaient d'inspiration laïque. Et donc, ce qui fait qu'avec le temps, la vision de la laïcité est beaucoup plus négative. Et il y a énormément de difficultés, c'est ce que je disais tout le temps, à essayer d'essayer de vendre, disons entre guillemets, ce concept et cette notion de cette manière. Et on se demande, est-ce que l'idée ne serait pas peut-être de clarifier ces valeurs sans utiliser le concept? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que cela naisse de l'intérieur? Ça veut dire, parce que là, naisse de l'intérieur, voilà à peu près la situation. Ça veut dire que... Et les traductions, donc il y a eu d'abord l'adinia, donc l'irreligion, après il y a eu almania, donc le monde sensible, donc la sécularisation, après il y a eu laïkia, qui a été assimilée à athéisme, etc. Et c'est les contextes, ça veut dire le terreau culturel était déjà différent par rapport à l'Occident. Et le terreau culturel lui-même aussi était différent selon les différents pays musulmans. L'Égypte et aussi les conditions historiques. Chez les Égyptiens, c'est des gens qui sont venus, c'était un protectorat, le Maroc plus ou moins. Le Maroc, ben, la France colonisait le Maroc, mais acceptait que le roi, le chef de l'État, soit le calife et le représentant de Dieu. En Algérie, c'était une colonisation de peuplement, donc on a pratiquement, les gens vivaient au jour le jour, la loi de 1905 à partir de 19... mais pas pour eux, mais pour les autres, etc. Bon, c'est juste pour cadrer un peu. Voilà, si vous avez... C'est surtout lui le maître, c'est lui le... Voilà.
Bonjour. Et bon, j'ai beaucoup apprécié la présentation. Et puis parce que nous, en Argentine, on forme de traducteurs et des traducteurs spécialisés. Alors, on travaille avec des corpus, n'est-ce pas? Alors, d'une part, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que vous aviez fixé le nombre de 87 millions de mots pour que ce soit... Parce que c'est énorme, n'est-ce pas, comme quantité. Mais c'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous avez choisi un nombre pareil? Et puis, d'autre part, je voulais savoir si les textes étaient originaux en français... Et pour suivre, n'est-ce pas, toute l'étude, ou s'il s'agissait des traductions.
Bien. Pour la première question, il s'agit en fait de, je vous ai parlé d'un projet de coopération avec l'Université de Cologne, et il y a actuellement, on a monté un projet qui essaie de créer la plus grande base de données textuelle du français non hexagonal, parce que ça n'existe pas. On parle de francophonie, on parle de, mais ça n'existe pas. C'est l'équivalent de Frontex. Et pour ce faire, nous avons collecté quelque chose comme autour de 500 millions de mots, une base textuelle de 500 millions, et notre ambition, c'est d'atteindre la 1 milliard. Et la base de données d'un milliard existe pour le moment pour l'anglais. C'est à partir de cette taille que le traitement automatique devient fiable et que la description de la langue peut être relativement exhaustive. Au sein de ce projet de 500 millions de mots, il s'agit de textes authentiques, de textes rédigés en français par des Français, des Tunisiens. C'est-à-dire, nous avons une presse francophone, c'est-à-dire les gens, ils écrivent, et il y a même des débats qui sont en français. Ça. Donc, il s'agit de textes authentiques. Donc, pourquoi 87 millions de mots? Parce que c'est pour une raison strictement empirique. C'était les textes disponibles gratuitement. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait récupérer gratuitement sur le net, tout en n'ayant pas résolu le problème des droits. Parce que n'importe qui, quand on le cite, il peut te dire, voilà, mais pourquoi ? Parce qu'il y a un problème, surtout en France, le problème de la définition, une autre définition, de la citation. Et ça, ça coûte très cher, la laïcité. Bon. Mais la citation, ça coûte très cher, c'est-à-dire à partir de quelle taille, quel nombre de caractères, il s'agit de citations. Au-delà, il faut payer. C'est pour cela que, par exemple, les dictionnaires ne donnent pas les pages, ne donnent pas les... Donc, il y a, c'est pour des raisons juridiques et pour des raisons...
C'est pas vraiment une question. Moi, j'étais très intéressée par votre explication, et surtout pour sortir du débat franco-français, quoi. Et ça, c'est très intéressant de voir comment le débat, comme vous l'avez dit vous-même, quoi. Finalement, c'est un peu le même, quoi, sur définir les mots, savoir de quoi on parle, s'affronter aussi sur ce plan-là. C'est tout à fait important, et sans doute qu'il faudrait qu'on aille creuser aussi du côté des pays nordiques en Europe, du côté des pays d'Amérique du Sud. Je vois qu'il y a l'Argentine. Et en Asie, parce que pour le coup, la question de la laïcité, enfin, peut-être qu'il faut d'ailleurs sortir de ce mot et parler de sécularisation, de manière à pouvoir partager ce corpus, enfin cette idée et ces chemins avec d'autres pays en Europe et dans le monde, pour sortir du débat franco-français dans lequel on étouffe là, franchement. L'exemple de tout à l'heure, ça, pour moi, c'est de l'étouffoir. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas en train de s'acharner à définir la laïcité à la française. C'est pas le but. Le but est vraiment de trouver en commun avec tous les pays du monde, hein, et on est tous confrontés à des religions, aux grandes religions monothéistes en tout cas, hein, et on a certainement des choses à partager, quelle que soit la religion, qui est la religion culturelle, traditionnelle de notre pays. Guillemot, Christine Guillemot.
Oui. Effectivement, il y a actuellement, comme l'a souligné tout à l'heure Sadr, il y a un vrai problème de mots. Je connais des laïcs convaincus de longue date, des gens qui ont payé cher leurs convictions en Tunisie, à l'époque de Bourguiba, et à l'époque de Ben Ali, et des gens qui sont de grands défenseurs des droits de l'homme, etc., qui se posent actuellement la question de l'emploi du mot laïcité. Et ils s'interrogent sur le fait que est-ce que c'est la meilleure façon de défendre la laïcité, parce que, par exemple, dans la constitution tunisienne depuis 57, il est écrit que la Tunisie, quand de la Tunisie, on ne parle pas de l'État. C'est ça la combine qu'on a. La Tunisie, l'ouratoua l'arabie, ou adinou l'islam.
La Tunisie a pour langue l'arabe et pour religion l'islam.
C'est-à-dire, ça peut être le peuple, ça peut être la... Mais les Tunisiens ont toujours vécu d'une manière, il faut dire, laïque. C'est-à-dire que le Tunisien, en tout cas, moi, je suis... comme il y a des Français de souche, il y a des Tunisiens de souche. Donc, je dois avoir des origines berbères et arabes et tout ça. Et donc, et peut-être bien européennes, parce qu'il y a eu plusieurs Européens qui sont restés chez nous. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le Tunisien, c'est quelqu'un de tolérant, c'est quelqu'un qui n'est pas violent, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à imposer son point de vue, et c'est un bon vivant, et puis si tu es convaincu, eh ben, tu es convaincu pour toi. Hein. Généralement, le Tunisien moyen, le Tunisien normal, parce que j'ai entendu ce mot plusieurs fois, et comme c'est érigé au sommet de l'État, la normalité, donc... s'impose, et ça va être, j'espère, un concept nouveau que les sociologues vont nous expliquer. Un Tunisien normal, c'est un Tunisien qui commence à penser à la religion pour de bon, hein, sérieusement, à partir de 55 ans, 60 ans. Hein. C'est-à-dire, à ce moment-là, les enfants ont grandi, on ne prend pas de bière chez soi,
ça commence à travailler
à l'intérieur, on ne sait jamais, hein, les convictions de la jeunesse s'effritent un peu, et là, s'il a des sous, il va à la Mecque pour avoir une absolution totale, et voilà, c'est ça le Tunisien, c'est une laïcité empirique. C'est une pas théorisée, pas... Mais il y a des gens qui sont très convaincus, et il y a actuellement un vrai débat, une vraie lutte entre les laïcs convaincus et, on va dire, les non-laïcs. Parce que c'est un fourre-tout également. Hein. Il y a les non-laïcs. Merci. Merci beaucoup.